Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous sommes en compagnie maintenant de Liliane Ridé par téléphone. Liliane Ridé, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes la vice-présidente de la LPO Drôme et c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors est-ce que vous voulez d'abord vous présenter un petit peu aux auditeurs ?
À Bourg-les-Valences, dans la Drôme. Je milite depuis plusieurs années pour la protection de la nature au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Et puisqu'il y a une association locale dans mon département, évidemment, j'en fais partie. Notre siège est installé à Saint-Marcel-les-Valences, au domaine de Gautreau. J'ai commencé en tant que bénévole, je le suis toujours. Au sein des bénévoles, après, j'ai été élue au conseil d'administration. Et au sein de mon conseil d'administration, j'ai été élue vice-présidente.
Voilà pour la présentation. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui a donc 100 ans cette année. Et l'idée de cet entretien avec vous, c'est un petit peu de retracer son activité sur ces 100 ans, peut-être en passant d'abord par un petit historique.
Alors, la Ligue pour la protection des oiseaux, donc 100 ans, comme vous venez de le dire, elle a été créée en 1912. À Perros-Guirec, au nord de la Bretagne, à la suite d'un massacre des macareux moines par des chasseurs qui, le week-end, allaient tirer sur les macareux. Donc, ils ont décimé la population adulte, ce qui fait que les jeunes ne sachant pas se nourrir, tous les oiseaux sont morts. Et il y a des gens qui se sont inquiétés de cette action, et c'est comme ça qu'est née la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc, c'est à la suite de ces massacres qui ont eu lieu sur l'île de Rouzic, qui font partie de la réserve des Sept Îles. D'ailleurs, c'est une réserve qui est gérée maintenant par la LPO.
Elle n'était pas en réserve avant, alors ?
Non, les Sept Îles n'étaient pas en réserve. C'est passé en réserve après. Et la gestion a été confiée à la Ligue pour la protection des oiseaux.
Vous avez cité aussi tout à l'heure la protection de la nature d'une manière générale. Alors souvent, on associe, LPO, c'est dans votre nom de protéger les oiseaux, mais il y a quand même une dimension écologique plus générale.
Ah, beaucoup plus grande, oui. Nous protégeons évidemment les oiseaux, leur biotope, sinon ils ne pourraient pas vivre. Toute la nature, tout ce qui est nature et faune sauvage. Donc vous voyez, l'activité est très grande. Hein. Et alors, notre association est implantée en France. Le siège social est à Rochefort, en Charente-Maritime, et il y a à peu près une association locale par département. Et nous fonctionnons tous de la même façon, surtout les mêmes activités. En plus, dans la Drôme, à Cré, nous avons un pôle chiroptère pour les chauves-souris, parce que nous avons beaucoup de chauves-souris dans la Drôme. Donc voilà, nos activités sont étendues.
Alors, depuis 1912, y a-t-il eu comme ça quelques grandes dates, quelques grands faits qui ont marqué un petit peu l'histoire de la LPO ?
Oui, bien sûr. Alors, 1912 est le point de départ, évidemment. Ensuite, en 1977, la LPO compte 2500 membres et fait partie des associations d'action de conservation et de l'environnement. En 1990, la première délégation de la LPO voit le jour en Lorraine. Et petit à petit, il y a donc, comme je vous l'avais dit, une association locale par département. Voilà, en 2009, il y a 45 000 membres. Son président est Alain Bougrain-Dubourg, que vous connaissez certainement. Son logo est le macareux moine, puisque c'est parti de ce massacre. Voilà, et depuis, la LPO a mené des actions et a engagé X... Bon, j'ai pas sous les yeux toutes les dates du centenaire. Néanmoins, si besoin, je pourrais vous les fournir, bien entendu. Parce que comme je pensais que vous souhaitiez plus demander de l'action que nous avions menée dans la Drôme pour ce centenaire.
On va se concentrer évidemment sur la Drôme, puisque nous sommes quand même une radio locale, bien sûr. Mais je pensais qu'il était important aussi quand même de rappeler votre attachement national, sans doute parce que ça vous permet quand même de travailler, on va dire, d'une manière plus importante en ayant plusieurs antennes dans différents départements quand même.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr, tout à fait. D'autant plus que, comme je dis, nous avons tous la même activité, hein, la protection de la nature, de la biodiversité, informer aussi, former et informer la population, et notamment les enfants, bien sûr, puisque c'est l'avenir, hein, c'est notre avenir, bien sûr.
Et faites-vous partie, la LPO, j'entends, de ces... associations ou groupements de personnes qui ont été comme ça un petit peu les pionniers, on va dire, de la protection de l'environnement.
Ah ben complètement, de la protection de la nature. Hein. Donc bien sûr que nous avions été les pionniers. D'ailleurs, nous faisons partie, LPO France fait partie de BirdLife International, qui est une très grosse association internationale où il y a plus de 2 millions d'adhérents dans le monde.
Ah oui.
Et il y a des échanges, évidemment, entre tout ce monde qui œuvre pour la protection de la nature. Oui, ça, c'est sûr.
Et au niveau national, encore une fois, et on va terminer avec ça, est-ce que la LPO s'est inscrite dans un certain nombre de débats importants, politiques, par exemple, pour faire avancer des choses?
Bien sûr. Alors, évidemment que la LPO se veut apolitique, mais à partir du moment où on défend un projet, des idées, on fait forcément de la politique. Hein, voilà. Maintenant, elle agit au niveau national et auprès des gouvernements pour toutes les actions qui nous paraissent porter atteinte à la protection de la nature.
C'est sous quelle forme, par exemple, vous allez faire des propositions particulières ou demander...
Alors, quand il y a des projets de loi, par exemple, nous avons un service juridique qui étudie et à ce moment-là, on intervient auprès des conseils régionaux, d'un conseil général, au niveau national... au niveau des ministères, etc., oui.
Mmh.
On a une action citoyenne et engagée, effectivement, oui.
Et vous êtes présent sur un certain nombre de forums, vous parliez de ce volet pédagogique, alors on en parlera un petit peu plus, évidemment, sur la Drôme, mais au-delà, de par exemple, d'avoir de l'éducation auprès des enfants, est-ce que vous faites aussi des colloques grand public, ce genre de choses?
Oui, les salariés interviennent. Bon, nous travaillons beaucoup avec le Conseil général de la Drôme, qui nous demande des interventions, notamment sur Soux, puisque Soux fait partie, est une propriété du Conseil Général, et on travaille en collaboration avec les gardes de l'ONF, etc. Donc il nous arrive, bien sûr, de venir présenter telle et telle espèce, pourquoi elle est protégée, pourquoi on la trouve dans la Drôme, ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire, et etc. Oui, oui, oui. Puis nous avons aussi des stands qui ont... quand même une action d'information aussi, de protection de la nature et puis de formation. Qu'est-ce que les gens peuvent faire à leur niveau pour protéger la nature? Donc il y a des petites actions très simples quoi, à faire au niveau de chacun. Les colloques, bien sûr, oui.
Et vous avez notamment, justement, vous l'aviez un petit peu cité, cette dimension aussi auprès des écoles, sans doute, auprès de la jeunesse.
Au niveau des écoles... là, nous intervenons par le biais des refuges LPO. Les refuges LPO, ce sont... alors, il y a plusieurs sortes de refuges. Il y a les refuges des particuliers. Il y en a plus de 130 dans la Drôme. Et un refuge, c'est un jardin, en fait. Un espace qui est protégé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chasse, pas de pesticides, pas d'insecticides. C'est un lieu protégé pour les oiseaux, la faune et la flore. Et ainsi, ça développe la biodiversité. On voit se développer la biodiversité dans son jardin. Donc c'est déjà important au niveau des particuliers. Il y a aussi les refuges au niveau des établissements. Donc ça peut être les établissements scolaires. Et là, il y en a plusieurs sur Bourg-les-Valences, ma commune, puisque j'ai commencé à m'intéresser. Et il y a une formation pédagogique. Ce n'est pas dire, bon voilà, on pose un nichoir, ça fait joli, et puis c'est terminé. Pas du tout. Là, les enseignants, je leur explique notre position, notre éthique, comment on voit les choses et comment les aider à inculquer aux enfants, sensibiliser les enfants sur la protection de la nature. Donc ils peuvent créer un refuge dans une école, c'est par exemple installer une petite mare, y mettre un petit peu d'eau évidemment, et laisser ainsi la nature faire, et puis au bout de quelques temps, ils observent ce qui se passe dans cette mare. Et là, ils peuvent voir... arriver des petites bestioles dans l'eau, etc., développer il y aura peut-être des grenouilles, au printemps il y aura des fleurs, il y aura des papillons, des insectes qui vont venir, et les enfants donc vont noter tout ça, Ils peuvent faire des petits comptes rendus à chaque fois, enfin noter ce qu'ils ont pu observer, etc. Donc c'est tout le côté éducatif. Donc je parle de la mare, ça peut être une mangeoire en hiver, ça peut être effectivement des nichoirs, expliquer aux enfants comment il faut poser les nichoirs, les trous d'envol, pourquoi ils sont plus petits ou plus grands, etc. Vous voyez, donc il y a un côté éducatif important au niveau des enfants.
Voilà, parce que ce qui est peut-être important de rappeler, c'est qu'effectivement, les oiseaux, c'est pas uniquement leur donner une petite maison, mais c'est tout un écosystème qui doit aller avec. Vous parliez d'une mare, bah, ça fait des insectes qui vont pouvoir manger.
Si j'en reviens à l'école, les écoles acceptent d'aménager un petit coin de la cour, d'une cour, ou un petit lieu qui est dans l'école qui sert plus ou moins. Et à ce moment-là, ils observent ce qui se passe. C'est pas la peine d'aller très loin, même ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ou bon, sur Valence, ou même enfin, dans la Drôme, il y a quand même beaucoup, beaucoup de lieux très intéressants où les parents peuvent emmener les enfants uniquement pour observer. Mmh. Observer, c'est pas quelque chose de compliqué. On peut s'asseoir au bord de l'eau et regarder ce qui se passe, attendre. On va voir des oiseaux, on va voir des poissons, on va voir des insectes, etc. Donc c'est pas forcément compliqué. Il faut savoir écouter et regarder.
Vous parliez tout à l'heure d'une éthique particulière de la LPO que vous essayiez justement de transmettre avant de passer vraiment à une pédagogie particulière. Est-ce que vous pouvez nous citer cette éthique?
Notre éthique, c'est protéger la nature, donc pas de chasse déjà dans les propriétés, parce qu'il y a des refuges qui sont très grands. Le plus grand de la Drôme, il fait 70 hectares. Donc ce sont des collines, mais il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de produits phytosanitaires qui détériorent les plantes et la biodiversité. Donc ça, c'est notre éthique, évidemment. Et la protection est essayer de favoriser la biodiversité. Donc on a mis les refuges en place pour favoriser, pour aider, pour se mettre à la portée de tout le monde, en fait. Et que tout le monde soit sensibilisé. Et ce qu'ils peuvent faire, on leur explique ce qui est possible de faire, chacun à notre niveau.
Rassurons-nous, hein, il n'y a pas besoin de moyens intenses finalement pour avoir un impact sur la biodiversité et sur justement le fait que les oiseaux soient là, soient présents, soient protégés, et comme le reste de la nature d'ailleurs. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens.
Les oiseaux ne sont pas exigeants. Hein. Mmh. Si dans votre jardin vous mettez à manger l'hiver, ce qui est très bien, ils vont venir. Si ça leur plaît, ils vont prendre. Si ça ne leur plaît pas, ils vont laisser ce que vous allez mettre. Bon, nous, on privilégie les graines de tournesol, qui sont très intéressantes. Enfin, je ne veux pas faire de la pub pour tel ou tel produit, mais enfin, bon, c'est pour ça que je parle de nourriture. On peut aussi mettre de la graisse l'hiver, après, mettre de l'eau toute l'année, et parce qu'ils en ont besoin pour boire, mais aussi pour leur plumage. Et là, c'est très simple, comme je dis dans les écoles, vous trouvez un bac de un dessous de pot de fleurs, vous remplissez d'eau, vous mettez au milieu de votre jardin, et vous allez voir le spectacle. Un spectacle magnifique.
Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler quel est l'intérêt au niveau biodiversité? De toute façon, il y a de l'intérêt pour toutes les espèces, mais quel est vraiment l'intérêt à ce qu'on préserve les oiseaux?
Mais parce qu'ils font partie de la nature et de tout ce qui est biodiversité, toute sa, chaîne alimentaire, etc. Bon, les oiseaux, ils ont tous un prédateur. Souvent, j'entends dire, bon, chez moi, je veux pas de ça parce que j'ai des chats, etc. Les chats font partie de la faune sauvage. Ils font partie de toute la faune sauvage, les oiseaux. Donc après, nous sommes partis des oiseaux, comme je vous l'ai expliqué en début d'entretien, suite au massacre du macaque moine. Mais il y a et plein de choses à faire. Et les oiseaux en font partie. Puis, c'est tellement beau, les oiseaux.
Oui, je voulais surtout aussi peut-être vous faire dire leur importance aussi qu'ils ont, par exemple, aussi dans l'activité humaine.
Bien sûr, mais les oiseaux, de toute façon, il y a une sélection naturelle aussi entre eux, comme dans toute la faune sauvage. C'est une démarche citoyenne aussi, et une prise de conscience que les produits phytosanitaires détruisent tout. Donc, effectivement, si l'agriculteur répand des tonnes d'engrais sur son champ, ben, petit à petit, il appauvrit sa terre. Sa récolte sera peut-être très florissante une année, mais elle le sera beaucoup moins puisque la terre s'appauvrit. Et évidemment, s'il y a de ces produits-là, les oiseaux qui vont aller chercher des vers ou autres, d'abord il y en aura de moins en moins, et ils s'empoisonnent avec ces produits-là, forcément. Certains oiseaux ont un rôle très important, je pense aux vautours chez nous. Dans la Drôme, nous avons les quatre espèces de vautours. Bon, Je vous en parle un petit peu ?
Oui, oui, allez-y.
Bon, alors nous avons le vautour fauve, le vautour moine. Nous avons le percnoptère, qui est le seul vautour migrateur. Et puis le gypaète barbu. Donc nous avons la chance de les avoir tous les quatre dans la Drôme. Vous devez certainement connaître l'association Vautour en Baronnie.
Oui.
Musa, dans le sud Drôme. Et à partir de là, nous avons un spectacle exceptionnel avec le rocher du Caire, où les vautours fauves nichent. Et nous avons aussi la chance d'avoir ces grands vautours beaucoup plus sombres qu'on appelle le vautour moine. Bon, tous ces vautours ont pour rôle de nettoyer la nature, puisqu'ils ne tuent pas. Ce ne sont pas des tueurs, ils sont pas des carnivores. Hein. Ce sont des
charniers, ils mangent les cadavres.
Ils mangent les cadavres. Donc ils nettoient la nature, puisqu'en plus, ils ont la faculté de tout digérer. Donc quand ils trouvent une bête morte, eh bien, ils vont la manger de A à Z. Et chacun son rôle, des quatre vautours. Hein, ça commence par le vautour fauve. Ensuite, c'est le vautour moine qui vient, parce qu'il a un bec beaucoup plus dur. Il va pouvoir s'attaquer aux parties de la bête plus dures. Ensuite, c'est le percnoptère qui, lui, est plus petit qu'un bec très long, qui va prendre les parties les plus tendres vers les os. Et le célèbre...
gypaète barbu.
Que l'on appelle aussi casseur d'os.
Voilà, qui va monter très haut et jeter les os pour manger l'intérieur.
Tout manger. Il va tout manger l'intérieur, mais aussi l'os en totalité. Donc, ils nettoient, ils ont un rôle vraiment particulier. Et vous voyez qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin des hommes.
Mmh.
Ils ont besoin de nous pour les protéger de l'homme. Voilà, mais pas entre eux. Donc ça, c'est un exemple très concret que nous avons en Drôme, que tout le monde peut aller admirer. C'est des vautours, ce sont des oiseaux magnifiques hein, que l'on peut admirer. Et il y a des spécialistes à Rémusa qui vous expliqueront encore beaucoup mieux que moi tout le phénomène des vautours. Et c'est pour expliquer ce que vous me demandez par rapport aux produits phytosanitaires, etc., les agriculteurs et tout ça. D'ailleurs, il y a eu un gros travail de fait par Vautour en Baronnie, par notre ami Christian Tessier, et les relations avec les éleveurs, etc. Et maintenant, les éleveurs, ils ont bien compris l'intérêt des vautours dans notre département.
Ça nettoie quand même assez facilement et sans beaucoup de frais, quoi. Hein. On évite des frais d'écarissage, de brûler les carcasses, etc. Hein.
Voilà, oui, bien sûr, ça coûte cher aux éleveurs, ça c'est clair. Mais avec les vautours, si on les laisse faire, par contre, il faut éviter de dire que le vautour tue les jeunes bêtes, les agneaux, etc. Quoi. C'est pas du tout ça.
C'est faux.
Un gros travail d'éducation à faire aussi, vous voyez. En Drôme, encore, on a la chance, comme je vous ai dit, d'avoir ces vautours, d'avoir l'association Vautour en Baronnie qui œuvre et qui informe, qui justement organise aussi des colloques pour expliquer, etc., etc. Mais au niveau général, la population, quand j'entends des gens qui disent « Ah, ben, il y a des vautours qui ont tué des brebis, etc. » Voilà, j'ai dit « Ben non, je suis pas d'accord avec ça et j'explique pourquoi. »
Concentrons-nous un petit peu, si vous voulez bien, maintenant, Liliane Ridé, sur les actions qui sont menées dans le cadre de ce centenaire par la LPO Drôme, donc, et dans la Drôme.
La LPO Drôme, qu'avons-nous fait ? On a travaillé depuis plus d'un an, et au niveau du conseil d'administration, nous nous sommes dit, que faisons-nous pour ce centenaire ? Alors, nous avons fêté, entre guillemets, ce centenaire à notre façon, c'est-à-dire que nous avons organisé beaucoup de stands, sur la Drôme, à plusieurs endroits, évidemment. Nous avons parcouru la Drôme du nord au sud pour aller à la rencontre des adhérents et des gens, d'une manière générale. Et on a expliqué beaucoup de choses, enfin tout ce dont on vient de parler, bien sûr. Alors, ça va pour les stands de la fête de l'écologie au quotidien à 10 en janvier. C'est à cheval, ça,
voilà.
Février. Ensuite, il y a eu la fête des fleurs à Mirabel et Blacon. Alors là, c'est souvent des gens qui nous invitent. Hein. On en a profité. Il y a eu le salon Primevert à Lyon, où toute la LPO Rhône-Alpes a aussi participé. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, tout à fait. Gros salon. Hein. C'est,
En bio. Hein.
Bio.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu ? Toujours au mois de mai, il y a tellement de choses. Hein. Il y a eu la foire biologique à Nyons. La fête des lavandes à Ferrassière, Ça, c'était début de l'été. En septembre, il y a eu la fête de la forêt et du bois dans le Nord-Drôme, à Autrive.
Oui, Autrive, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons participé à Heure. Il y a eu les journées portes ouvertes de la Biovallée.
Oui.
Vous devez connaître aussi.
Mais tout à fait, on vous y a vu.
Ah d'accord.
Ouais, c'est bon. De là qu'est parti cet entretien d'ailleurs, hein, il me semble.
Bon, très bien. Et puis après, il y a eu le 13 octobre, évidemment, notre grande fête à la Bégue de Mazin. Alors, cette fête, donc nous avions décidé au niveau du CA, donc les stands, et organiser une fête pour nos adhérents. Et puis, très vite, en trouvant notre salle dans le centre de la Drôme, donc la Bégude. Alors, pourquoi la Bégude? Parce que nous avons été très, très bien reçus par le conseil municipal, qui nous a tout de suite orientés aussi vers l'école, le directeur de l'école de la Bégude, et toute l'équipe enseignante. Ce sont des gens formidables. Et à partir de là, nous nous sommes dit, bon, OK, la fête pour les adhérents. On va quand même ouvrir aux adhérents alentours, qui soient les premiers informés de ce qui se passe à côté de chez eux, hein. Et puis, avec l'école. Alors, que faire avec l'école? Eh bien, tout de suite, il nous est venu l'idée de fabriquer 100 nichoirs avec 100 enfants, puisque le directeur et les enseignants nous ont dit que ça sera avec 4 grandes classes. 100 nichoirs, 100 enfants pour les 100 ans. Et à partir de là, nous avons un groupe de bénévoles acheté du bois, nous l'avons découpé, chez vous, là-bas, à Di, chez notre président.
Oui.
Nous avons fait les trous, percé tout ça, dans le cadre de la sécurité. On ne pouvait pas laisser cette tâche-là
aux enfants.
C'était trop difficile et dangereux. Donc, nous avons pris toutes nos précautions de sécurité. Alors, nous avons donc formé des kits. Et puis, après, nous avons eu beaucoup de réunions avec la mairie, avec le directeur, les enseignants, les bénévoles, etc., qui ont voulu... souhaiter participer à l'organisation de cette fête. Nous avons eu des journées sur place avec les classes. Nous sommes sortis, nous sommes allés sur des sites qui avaient été choisis par l'école, des sites sur la commune de la Bégude de Mazin. Et là, les enfants avaient un petit travail à faire, c'est-à-dire créer un plan. Donc nous leur donnions un point de départ. Ils devaient choisir un arbre qui était sélectionné à l'aide d'un petit raffia rouge pour pas abîmer le tronc. Et cet arbre sélectionné, eh bien, le 13 octobre, il devait être retrouvé pour poser un nichoir. Donc les enfants, en partant du point de départ, devaient compter le nombre de pas pour aller jusqu'à l'arbre et pour s'y retrouver. Donc ça leur a fait une occupation importante. Ça leur a appris comment on pouvait créer un plan. Et donc, vous voyez le côté éducatif aussi. Hein.
Mmh, oui, ça va bien au-delà de la protection des oiseaux purs. Hein.
Vous avez dit protection de la nature et de la biodiversité. On essaye de leur expliquer très simplement comment ils peuvent aussi agir à leur niveau. Donc, créer un petit plan, nombre de pas, repérer l'arbre. Pourquoi on met du raffia et pas un clou? Bien, parce que le clou peut blesser l'arbre et ça ne se fait pas. Voilà. Ensuite, donc les 4 classes sont sorties. Et ensuite, nous avons consacré encore 2 journées, donc une demi-journée par classe, pour le montage des nichoirs. Et là aussi, c'était manuel comme exercice, mais intéressant, puisqu'on leur a prêté des tournevis, évidemment. Les parents d'élèves se sont bien impliqués et ont rejoint l'équipe de bénévoles. Et dans les classes, eh bien voilà, on a monté les nichoirs, donc les enfants étaient ravis, émerveillés, ils avaient chacun leur nichoir. Ils ont été bien sûr autorisés à les décorer, à mettre leur nom dessus. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant avec les enfants qui étaient ravis. Mais ils avaient été très bien préparés aussi par leurs enseignants, comme je vous l'ai dit, qui étaient vraiment partie prenante dans ce projet. Et puis le 19 octobre, nous avons créé des groupes, encadrés évidemment par des bénévoles de la LPO, par des parents d'élèves. Et les groupes sont partis... les parents avaient les échelles sur l'épaule, les enfants leur nichoir sous le bras et chaque classe est allée sur un site pour poser les nichoirs. Voilà, alors après c'est la journée de notre grande fête du 13 octobre où très tôt à 7h30 il y avait une sortie ornitho pour les personnes qui sont matinales, hein, parce qu'à 7h30 ça fait un petit peu tôt. À 9h, c'était l'ouverture de la journée, l'ouverture officielle. Donc, notre président a accueilli les EDU. Ils ont été nombreux à venir nous voir. C'était bien sympathique. Et à 10h, les groupes sont partis, donc, comme je vous l'ai dit, sur les sites pour la pause des nichoirs. Comme il faisait très beau, nous avons pu pique-niquer devant la salle de la Valden, puisqu'il y a un espace en gazonné, donc on a pu s'asseoir, il faisait très beau. L'après-midi, retour sur le terrain pour finir la pause des nichoirs. Ensuite, il y avait un goûter. Et tout au long de la journée, à la salle de la Valden, il y avait exposition sur la chauve-souris, sur la chouette effraie, sur la migration avec tête en l'air, et puis un stand de LPO, évidemment, où on pouvait trouver beaucoup d'ouvrages sur la nature, des guides ornithologiques, un petit peu pour tous les niveaux, des nichoirs, etc. Et un stand de refuge. Et là, on a deux amis du Sud qui ont organisé un jeu concours pour les enfants, les adultes. Donc, à l'aide des oiseaux qui ont été répertoriés sur un site qui s'appelle Faunedrome, où chacun peut enregistrer les observations qu'il a pu faire dans la journée, dans son jardin, à la campagne, etc. Nous avons donc sélectionné les oiseaux que l'on voit à la Bégude de Mazin. Il a fait de très belles photos, images, elle a fait une composition. Et les enfants, à l'aide d'une fiche où il y avait 36 noms d'oiseaux, devaient repérer les 26 qui figuraient sur le support. Voilà. Après, bien sûr, c'était corrigé et ils ont gagné de très beaux lots, des ouvrages, évidemment, sur la nature, sur les oiseaux, sur toute la faune sauvage. Et le soir, il y a eu un exposé de vautours en baronnie, justement sur nos amis vautours, dont j'en parlais tout à l'heure.
C'est pour ça que vous étiez à la pointe.
Oui, ben on essaye quand même. Hein. C'est une chance de les avoir à côté. Et le soir, on a terminé par un petit repas entre adhérents et puis un bal folk, voilà, puisqu'on a un vice-président qui fait partie d'un orchestre et qui joue aussi. Voilà, donc c'était une très très grande journée. Le matin, au petit déjeuner, il y avait 180 personnes. Pour le goûter, il y en avait 130. Donc vous voyez, c'était...
Intense.
Ah oui, c'était très intense et très chaleureux.
Vous parliez de cette action auprès de cette école de la Bégude de Mazinc. Ça me fait beaucoup penser à ce qui peut être parfois proposé dans certains centres de loisirs concernant des classes de découverte. Et on sait que les classes de découverte se font de plus en plus rares parce que justement, c'est beaucoup de frais, souvent beaucoup de frais pour les communes et puis surtout des responsabilités pour l'instituteur. Là, ce type d'action... C'est quasi du clé en main. Vous pouvez venir avec des équipes et puis faire en sorte que les élèves ne bougent même pas de l'école. C'est presque de la classe de ce qu'on appelait les classes vertes là.
C'est quelque chose de très lourd. Hein. Là, je vous l'explique, ça paraît peut-être très simple. Enfin, je sais pas quel est le ressenti des personnes qui.
Je pense pas que ça passe pour être très simple, mais par contre, ça fait effectivement penser à ce type d'action qui peuvent, les classes de découverte en général, les classes se déplacer pendant deux semaines et puis faire aussi des cours en même temps. Et ça fait assez penser à cette démarche-là.
Alors, il y a des associations spécialisées hein, dans la formation. Pour accueillir les enfants, leur faire de l'animation, etc. Nous, au niveau de la LPO Drôme, nous ne sommes pas suffisamment assez grands, assez importants. Nous n'avons pas un service animation, en fait. Là, nous l'avons fait parce que c'était pour organiser notre fête du centenaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe de bénévoles. Mais parmi les bénévoles, il y en a 9 sur 10 qui travaillaient. Donc, c'est pris sur leur... soit leur congé, soit leur RTT, etc.
Évidemment, oui.
Et au niveau du bénévolat, ça a été quand même une action très lourde. Hein. Y a eu les réunions en amont, comment organiser les réunions avec la mairie, l'école, les enseignants. Pour en arriver là, on a travaillé pendant un an.
Bien sûr, c'était simplement une question annexe, ou peut-être...
Ce n'est pas... Si nous y réfléchissons au niveau du conseil d'administration sur... si nous pouvons créer de l'animation, parce que nous avons quand même un grand savoir, hein, toute modestie gardée, bien sûr, au niveau de notre association, il y a beaucoup d'activités, on fait beaucoup de choses, mais nous n'avons pas un service animation, parce qu'au départ, la LPO Drôme existe depuis janvier 2009. Auparavant, il y avait c'était le Cora Faune Sauvage, et encore avant, c'était le Géderbe. Donc, Cora Faune Sauvage, c'est Centre Ornithologique Rhône-Alpes. Et tous les CORA Rhône-Alpes sont passés LPO maintenant. Donc ça fait une association beaucoup plus importante, beaucoup plus étoffée en salariés, en bénévoles, etc. Néanmoins, une activité animation, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut vraiment des gens très compétents aussi. Et puis, il faut trouver des moyens financiers, j'entends. Donc les moyens, à l'heure actuelle, c'est très, très difficile. Et c'est vrai que les écoles, très souvent, n'ont pas de gros budgets. Vous parliez tout à l'heure de coûts des classes vertes. Les écoles n'ont pas de gros budgets. Et nous, il ne nous est pas possible d'offrir ça gratuitement, quoi. Mmh. Et il faut embaucher du personnel qualifié ou que l'on peut former, ça, c'est d'accord. Et il faut aussi du travail à plein temps. On ne peut pas embaucher quelqu'un et... constamment, on n'est pas très favorable à des emplois temporaires, enfin, à développer
la précarité. Bon, bah alors on verra, peut-être un jour, alors peut-être.
Pourquoi pas, oui. Nous y réfléchissons, on a une commission qui a été créée, qui réfléchit à tout ça, et peut-être qu'un jour, oui, voilà. Maintenant, quand je visite les écoles pour leur présenter le projet, souvent les directrices m'appellent pour me dire quand est-ce que vous venez poser un nichoir. Donc vous avez bien compris que la pose du nichoir, c'est la finalité, quoi. Il y a toute une démarche, un engagement auparavant.
Et puis donc, on entend bien qu'il y a quand même une demande aussi. Hein.
Oui.
Puisque nous parlions de moyens, peut-être la question qui fâche, mais quelles sont vos sources de financement? Comment vous fonctionnez?
Ça ne me fâche pas, hein. Je n'ai pas du tout honte de nos finances. Bien au contraire, j'en suis très fière. Nous avons 8 salariés dans la Drôme. Donc, il y a un directeur... Et il y a 2 pôles, donc le pôle Oiseau qui est à Saint-Marcel-les-Valence avec 4 salariés plus la direction. Et nous avons un pôle à Cré, donc qui s'occupe plus particulièrement des chiroptères, comme je vous l'ai dit, des chauves-souris. Et ça fait 8 salariés. Donc l'association vit en partie, en grande partie, du travail des salariés, comme toute entreprise. Alors nous faisons beaucoup d'études scientifiques, en plus des comptages, etc. Il y a des études qui sont faites, qui nous sont demandées par des grosses entreprises, par le Conseil général.
Voilà, qui sont vendues donc, hein.
Qui sont vendues, oui, bien sûr. Voilà, donc il y a une partie terrain, une partie rédaction d'un rapport, etc., avec toutes les informations qu'on nous demande, bien sûr.
Voilà. Et puis pour terminer sur ces 100 ans, malheureusement nous avons cité là que des actions qui sont passées. Est-ce qu'il en reste encore dans les 2 mois qui arrivent? Est-ce que l'activité hivernale vous ralentit aussi?
Il y a toujours des activités, il y a beaucoup de comptages en ce moment. Il y a les chamois, il y a les bouquetins, mais bon, les gros mois peuvent aller sur le site internet. Et il y a tout l'agenda. D'ailleurs, les adhérents reçoivent notre journal trimestriel, qui s'appelle le LPO Info. Et au dos, il y a toutes les sorties qui existent. Alors, écoutez, je peux vous en citer pour vous donner une idée. Le 10 et 11 novembre, il y a le comptage des chamois dans Glandas. Ça, c'est avec notre président et il faut s'inscrire. Le 11 novembre, il y a aussi... les derniers migrateurs et les premiers hivernants, avec un groupe local de Nyons. Alors notre association aussi, et je n'en ai pas parlé, et il y a des groupes locaux, parce que la Drôme est grande. Hein. Donc il y en a un dans le sud qui est à Nyons, le groupe local de Nyons. Entre deux, là, il y a Montélimar-Trécastin, il y a le groupe de Die et le groupe du Royan. Et puis il y a aussi vers Romans, le groupe de la Chouette Effraie, etc. Donc chaque groupe organise des sorties ou des comptages, etc. Et là, les gens peuvent évidemment nous rejoindre. Donc ça ne s'arrête jamais, même en hiver. Vous voyez, il y a aussi le 23 novembre, la soirée pelote de réjection. Donc ça, ce sont des jeunes qui s'en occupent. Donc ils récupèrent toute l'année, vous savez, les rapaces, ils régurgitent les os, les plumes qu'ils ne peuvent pas digérer. C'est ce qu'on appelle les pelotes de réjection. Et là, il y a un groupe de jeunes et de passionnés qui décortiquent tout ça pour voir quelle espèce a mangé quoi, etc. C'est ce qu'on appelle les soirées pelotes. Voilà, et il y a beaucoup d'autres. Il y a la sortie des oiseaux hivernants au bord du Rhône, le comptage des bouquetins dans le Royan. Il y a des oiseaux de Camargue. Bon, ça, c'est un petit peu plus loin. Le 16 décembre, il y a la recherche de l'aigle de Bonelli avec le groupe de Nyons encore. Il y a le comptage de Bouquetin dans le Glandas, Ouest, Archiane, etc. Donc là, je pense que le mieux, c'est de, si des personnes sont intéressées, c'est aller sur lpo.fr. Dans les réseaux, ils trouvent la Drôme et, ou alors Cora Faune Sauvage, ça existe encore. On est en train de recréer notre site internet, puisque Cora n'existe plus, c'est LPO Drôme, LPO Rhône-Alpes, etc. Donc il y a toutes les informations sur internet. Bien sûr, si on n'a pas internet, on peut appeler aussi la LPO Drôme au 04 75 57 32 39. Et là, on a l'animatrice qui peut donner des informations. Ah, donc l'activité ne s'arrête pas.
Juste à ce propos, nous par exemple, nous faisons partie d'une mailing list où nous recevons les rendez-vous. Est-ce que c'est possible de s'inscrire ? N'importe qui peut s'inscrire à cette liste ?
Oui, alors ça c'est l'information que l'on envoie, que l'on envoie soit à la presse, soit aux radios, effectivement.
Et donc il ne pourrait pas y avoir ce type de liste ouverte pour des auditeurs qui pourraient s'inscrire comme ça et recevoir régulièrement vos...
Non. Bon, bah, comme je vous disais, il faut appeler le siège, hein,
Okay.
Le Drôme.
Lydiane Ridé, vice-présidente de la LPO Drôme, merci de nous avoir présenté un petit peu cette ligue de protection des oiseaux qui a maintenant 100 ans, et puis plus particulièrement sur la Drôme. Est-ce que nous aurions oublié quelque chose d'important que vous voudriez nous faire part ?
Je pense avoir bien insisté sur la protection de la nature, que ce n'est pas quelque chose de compliqué, et que ça peut se faire au quotidien et au niveau de chacun. Et voilà, donc je souhaite de belles observations à tout le monde et un bel automne.
Eh bien, je vous remercie.
Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
1 Terre View.
Okay, the bird.
L'interview du jour.